Et pour la nôtre, référez-vous à la, le premier coup que nous avons eu mardi matin avec Rachid, nous décrit la très difficile émergence, engendrement, à partir d'Abraham revenant de l'exil de Ur-Chasdim. Il s'agit de faire réapparaître l'identité hébraïque qui finalement n'émerge qu'avec Jacob à la troisième génération et en conséquence de l'épreuve ultime d'identité, il reçoit le nom d'Israël. J'espère donc aujourd'hui que nous arriverons à étudier cette page de Talmud et les différentes références qui nous sont indiquées. Vous verrez qu'il y a un court-circuit entre le changement de nom en Abraham, d'Abraham à Abraham, au point de départ, et d'autre part, le changement de nom de Jacob à Israël. Le cas particulier d'Isaac, c'est qu'il est le seul patriarche, des empereurs de cette identité d'Israël, qui n'est pas changé de nom. Une petite parenthèse sur le cas particulier d'Isaac parmi les trois patriarches, c'est un sujet très important pour lui-même. Il se définit comme ayant un seul nom, une seule terre, une seule femme. Alors qu'au niveau d'Abraham, Abraham a deux femmes, et deux lignées procéderont d'Abraham, une par Agar qui est Ishmaël, au temps où Abraham se nomme encore Abraham. Jacob a, comme vous le savez, quatre femmes, essentiellement deux plus deux, mais Isaac est un cas particulier. Cette parenthèse est un thème pour lui-même, je crois que ça mérite d'être indiqué. Vous référez cela à la définition de l'épreuve d'identité que donne en particulier l'enseignement du Maharal, qui récapitule cette méthode, mais qui existe dans toutes les lignées d'enseignement, dans la relation entre l'homme et Dieu, la relation entre l'homme et autrui, la relation entre l'homme et lui-même. Et la relation entre l'homme et autrui, Isaac a une seule femme. La relation entre l'homme et Dieu, Isaac a une seule terre. Et la relation entre l'homme et lui-même, Isaac a un seul nom. C'est le thème, ce serait le thème d'une étude pour elle-même, Isaac. Je referme la parenthèse. Alors, demain, je me propose d'étudier le texte du Talmud que je vous ai annoncé lundi matin. Ça semble être une parenthèse dans le thème du séminaire, mais c'est très important. Nous avons longuement étudié la définition du chidouch avec Rashi, la première étude, et je vous avais indiqué qu'il y a un cliché qui consiste à dire que dans la discussion talmudique, que chaque rave qui enseigne a une signification différente du verset. Je vous ai inversé cette analyse, vous rappelez, à partir d'une signification identique du verset. Il y a une projection du commentaire, entre guillemets, vous rappelez de cette analyse, sur des situations historiques différentes. La machloket, la controverse entre les enseignants du Talmud ne porte pas sur la signification de la Torah, mais sur son dégagement dans l'histoire. Elle est, si j'ose dire, en poussant les termes à la limite, elle n'est jamais d'ordre éthique, elle est toujours d'ordre politique. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Elle ne porte pas sur le sens de la Torah en tant que vérité éternelle. Et là, il y a unanimisme absolu. Torah de Moshe fait foi, et il est évident qu'un haram de la Torah a le sens que Moïse a transmis à travers les générations des Talmidei Chachamim. Mais elle porte sur le diagnostic de la situation historique. Alors, je pense que, puisque la majorité d'entre vous avait prévu leur semaine de cours jusqu'à vendredi, que demain nous étudierons cette page. Je reprendrai les cours lundi et mardi pour un complément d'analyse sur l'identité hébraïque au temps des patriarches dans sa relation à l'universel humain. C'est clair? Donc, alors, on enchaîne. Alors, vous allez prendre cette page. Et où nous avons, au milieu de la page, je voulais indiquer, au milieu de la page, en soulignant trois mots, l'expression Abraham ou Abraham. Abraham, c'est lui Abraham. Vous y êtes? Mais avant d'y arriver, on fouillera un peu plus en détail le texte à partir de cette phrase. Je vais lire l'ensemble de la soudia, c'est-à-dire l'ensemble du sujet. Vous êtes déjà habitué au terme de soudia lorsqu'on parle du Talmud. La soudia, c'est un sujet qui est étudié pour lui-même, dans le contexte général, des questions étudiées par le chapitre de Talmud. Alors, ça commence à la Mishnah que vous avez en haut. C'est la dernière Mishnah du premier chapitre de la Maseret Brachot, et dont la plus grande partie de cette Mishnah a pris corps dans le récit de l'Agada de Pessah. Alors, je traduis sans même vous signaler les différents thèmes qui apparaissent à chaque moment de la traduction, mais simplement pour le rattacher à notre sujet. On enseigne Matnitin, ça ouvre une Mishnah, nos maîtres ont enseigné, on enseigne Maskirin Yetiat Mitzrayim Balelot, on mentionne la sortie d'Égypte, sous-entendu le souvenir de la sortie d'Égypte, les nuits, pas seulement dans les liturgies du matin, mais aussi dans les liturgies de la nuit. À quoi ça se réfère? Ce sont des études précises, ponctuelles pour chaque point. Mais je répète, j'espère une dernière fois, je vous traduis cela pour que vous ayez l'atmosphère du contexte lorsqu'on arrivera à l'enseignement qui nous concerne, la différence d'identité entre, dans la même identité entre Abraham et Abraham. C'est clair jusque-là? Non. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria a enseigné, a dit, Hare ani keben shivim shana. Voici que je me trouve comme âgé de 70 ans, il était à la tête du Sanhédrin, très jeune, pour des raisons historiques que l'on connaît d'autre part, et il dit, je suis censé avoir la connaissance qui vient de cette sagesse qui vient de l'âge, Zaken, Shivim Shana, vous vous rappelez de ces analyses qui étaient là? Velozachiti, j'étais amer, et tiet misraim balelot. Et je n'ai pas encore mérité, je n'ai pas réussi à faire établir que la sortie d'Égypte soit dite dans les nuits. C'est-à-dire, je ne suis pas arrivé à en donner une preuve. Il y a une décision d'autorité qui nous est donnée au début de la Mishnah et qui tranche dans une controverse qui, semble-t-il, a été très importante en ce temps. Est-ce qu'on rappelle, dont le sens fondamental est le suivant, est-ce qu'on rappelle la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la délivrance de l'exil, alors qu'on est revenu en exil? N'y aurait-il pas ici une contradiction spirituelle dans le sens de la liturgie, à la limite même de commémorer Pessah après la destruction du premier temple? Puisque, semble-t-il, la destruction du premier temple et le rejet dans l'exil de l'universel humain auraient, hypothèse, seraient considérés comme ayant annulé la réalité de l'événement de la sortie d'Égypte. Peut-on continuer à prendre comme référence de la foi d'Israël la Géoula de Mitzrayim, la délivrance d'Égypte, alors que peut-être on pourrait considérer que son effet est annulé puisqu'on est redescendu en exil? La gravité du problème. Et donc, les rabbins sont en discussion. Est-ce qu'on mentionne la sortie d'Égypte dans la liturgie du soir, de tous les soirs? Est-ce que, et derrière, en filigrane, il y a la question, est-ce que ça a un sens de commémorer Pessah, la délivrance de l'exil, alors qu'on est retourné en exil? Il y a une décision d'autorité. Quand même, on le fait, on continue. Mais comment le prouver? Comment le fonder, Sirah? Hatcha derasha Benzoma. Jusqu'à ce que Benzoma ait expliqué cela de cette manière, Shenemar, en se basant sur un verset qui parle de la sortie d'Égypte, Les Maran Tisco et Tion Tsetecha Meretz Mitzrayim, afin que tu mentionnes le souvenir, tu actualises le souvenir du jour de ta sortie d'Égypte, Kol Yemechaïcha, tous les jours de ta vie. Voici l'explication de Benzoma, vous suivez dans le texte, Yemechaïcha, si le texte avait porté les jours de ta vie, ça aurait suffi, parce que les jours de ta vie, c'est tous les jours de ta vie. Pourquoi le texte porte tous les jours de ta vie? Le mot « tout » en plus, « kol yemechayecha halelot », c'est pour inclure les nuits aussi. C'est-à-dire que à la sortie d'Égypte, il nous est annoncé l'éventualité du retour dans la nuit, mais même, c'est-à-dire dans l'exil, vous comprenez le parallèle, à la sortie de la nuit, on nous annonce d'avoir à ne pas oublier que cela s'est passé, que nous savons qu'on sort de la nuit. Mais il nous est annoncé que cette mémorisation doit se faire même si on revient dans la nuit. Comment ça nous est annoncé? Tu t'en souviendras tous les jours de ta vie. Il aurait suffi de dire les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, ça implique les nuits aussi. C'est clair, okay? La question difficile dans l'étude talmudique, c'est pourquoi l'ensemble de la sagesse des sages de ce temps-là ne pouvait pas résoudre cette question de la manière aussi simple que Benzoma, qui à l'époque était le plus petit des grands, le dit. C'est donc, la chose n'est pas simple. C'est une étude talmudique, c'est pas en un quart d'heure, car Bon, on va admettre. Vachachamim omrim. Alors que les sages en général disaient, en parlant de ce verset, comment ils utilisaient ce col qui est en plus, ce tous les jours qui est en plus, kol yemechayecha olamazé, les jours de sa vie, ça indique le commandement de cette commémoration pendant tout le temps de ce monde-ci, entre parenthèses, y compris les nuits, pas y compris les nuits, ça va de soi, puisque c'est tout le temps de ce monde-ci, et qu'est-ce que ça veut dire le temps de ce monde-ci jusqu'au temps messianique. C'est clair ? Deux, et que c'est le temps messianique pour ce contexte, la délivrance ultime du dernier des exils, après quoi il n'y en a plus. C'est ça la fin de Olam Hazeh. Petite parenthèse à cause du vocabulaire, vous savez que la culture juive contemporaine est très désorientée devant le manque d'une théologie messianique. Semble-t-il, avec le temps de ce dernier exil de 2000 ans, il y a eu une espèce de syncope, de parenthèse dans la pensée juive. On ne sait pas vraiment sur quoi se référer pour parler des choses concernant le temps messianique. C'est un sujet pour lui-même. C'est clair la question que j'ai dit ? En réalité, il y a une explication parmi d'autres, il y a tout un faisceau d'explications. C'est surtout le cas de la pensée juive en monde occidental. Parce que en monde occidental, la religion dominante était le christianisme, et il y avait donc tout un problème d'amalgame de langage, d'imprécision, comment dire, d'ambiguïté de langage. En ce qui concerne tout l'enseignement de la Torah, de la tradition concernant les choses des temps messianiques, vous avez dû remarquer cela, le flou absolu des concepts et des idées dès que les juifs contemporains commencent à parler des choses messianiques. On ne sait pas de quoi on parle. Il y a une seule référence claire du point de vue de la juridiction rabbinique, c'est le 11e chapitre de Hilchot Melachim dans le Mishneh Torah de Maïmonide. À part ça, tout est resté oral, caché. Pourquoi ? À cause de la difficulté du discours en monde chrétien. Dès qu'on dit Messie, il y a un monde d'amalgame et de... vous avez compris ? Semble-t-il que le monde ashkénaze, c'est le monde juif en civilisation occidentale chrétienne. Le monde sfarade, c'est le monde juif en civilisation islamique orientale. Okay ? Schématique, mais clair, je suppose. Bien, le monde ashkénaze a pris une décision de occulter toute la tradition messianique à cause de l'environnement culturel chrétien. Je schématise 2000 ans d'histoire. Okay ? Alors qu'en monde sfarade, c'est à référer au fait que la Kabbalah était plus à l'aise chez elle en monde sfarade qu'en monde ashkénaze. En monde sfarade, l'environnement du paysage culturel extérieur était musulman, et avec l'islam, on n'a pas tellement de problèmes concernant le Messie. Est-ce que c'est clair ? Je précise, Olam Hazeh, ça veut dire tout le temps de l'histoire du monde jusqu'à la fin du dernier exil. Aharit Hayamim, c'est les jours de l'exil. Quand les jours de l'exil s'achèvent, commence le temps dit messianique, qui a un début qu'on appelle Mashiach ben Yosef et une fin qu'on appelle Mashiach ben David, et ensuite c'est Olam Haba. Alors, repère très bref que nous allons retrouver dans cette sugya. Le signe fondamental du temps de Mashiach ben Yosef, c'est le rassemblement des exilés. Le signe fondamental de Mashiach ben David, c'est la résurrection des morts. Alors vous voyez à quel point c'est à deux niveaux radicalement différents. Alors je schématise, Olam Hazeh, le temps de l'histoire, du point de vue des coordonnées immédiates de la conscience juive, le temps de l'histoire jusqu'à la fin du dernier exil, c'est-à-dire jusqu'à la fin du dernier des quatre empires dont j'ai parlé dans les cours précédents, et le commencement de Malchut des Yemot HaMashiach, de la royauté restaurée à Israël, et que l'on appelle la royauté messianique. Ensuite, le temps des Yemot HaMashiach, qui va du Mashiach ben Yosef au Mashiach ben David, et après Olam Haba. Nous avons beaucoup de textes du Talmud qui indiquent qu'à la rigueur, on peut dire quoi que ce soit des Yemot HaMashiach, Olam Haba, personne n'a vu, personne ne sait. Je referme la parenthèse. Okay ? Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas, mais... Et ceci pour préciser le sens des mots. Alors, que disaient les Chachamim ? La Torah a prévu qu'on rappellera la sortie d'Égypte comme pivot d'expérience de la foi d'Israël. La Géoula est possible. Et la Géoula est possible. Elle est vécue dans son principe par Israël, mais il s'agit de la Géoula du monde. Le monde passe par le stade des quatre empires et sera délivré de ce qui a commencé avec Nimrod à Babel, Vous reconnaissez ce que j'ai insisté dans les cours précédents, l'éclatement de l'unité au temps de Babel. On sera sauvé, en fin de compte, de tout cela, à la fin du quatrième empire. Et cette Géoula, elle est vécue de façon exemplaire par Israël. C'est la foi d'Israël, mais l'univers entier, je parle de l'universel humain, a perçu que Israël vit l'objet de la foi de toute créature. Parce que la situation de créature consiste à être en exil par le fait d'avoir été créé. Le fait d'avoir été créé, ça veut dire avoir été exilé de la source de l'être en vue d'une épreuve qui est l'histoire. Et donc, toute créature vit une situation existentielle d'exil, mais voilà qu'il s'avère qu'un peuple, une société parmi les autres, existe ainsi, et c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, l'universel humain a reconnu, quelles que soient les rivalités et les ingratitudes, a reconnu le principe de la foi de l'homme dans la foi d'Israël. Et quelle est la foi d'Israël? Que la Géoula est possible, qu'on peut sortir de la nuit, de cette nuit, de la condition de créature. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est encore un sujet pour lui-même. Et chaque culture a exprimé, a vécu l'exigence du salut à sa manière et le définit à sa manière, mais l'universel humain perçoit qu'Israël vit l'objet de la foi du salut dont parle, qui est, comment dire, en question dans la foi, dans l'exigence de salut de toute créature. Et je ne voudrais pas ouvrir ce chapitre parce que et c'est un sujet pour lui-même, comme je disais d'habitude. Vous recorderez par là tous les versets qui indique, je reprends un peu la remarque de M. Tati tout à l'heure, déjà dans la Torah et dans toute la Bible et surtout les prophètes, que toutes les nations du monde reconnaîtront que l'espérance du salut passe par Israël. C'est en cours depuis des milliers d'années. En Occident, on peut récapituler quel intérêt a la chrétienté vis-à-vis d'Israël. C'est qu'elle sait qu'à l'origine, s'il y a une bonne nouvelle, évangile en grec, du salut, c'est venu de Jérusalem. Et Jérusalem, c'était quoi? C'était pas une ville œcuménique, c'était la capitale des Hébreux. C'est de là qu'est venue cette bonne nouvelle. L'islam pour sa part, et tous les humanismes, etc. C'est encore un autre sujet, mais vous récapitulez tout cela. Chaque fois que vous rencontrez chez les prophètes un verset qui fait allusion à cela, chose inouïe. Sur un petit point de l'humanité à travers l'histoire de l'universel humain, et celui-là seul, on a entendu, l'universel humain écoutera la bonne nouvelle qui vient de Sion, de Jérusalem. Le salut est possible. Quel salut? Les chrétiens diront salut à leur manière. Les musulmans à la leur. Tous les hommes, toutes les doctrines à la leur. Mais en fin de compte, il s'agit d'être sauvé de la condition de créature. Seule la Torah a expliqué pourquoi nous existons sous la condition de créature. C'est clair jusque-là? Bon. Et oui.
Est-ce qu'il viendra pendant la période
messianique
de Mashiach Ben Yosef
ou entre les deux?
Entre
les deux.
Entre Mashiach Ben Yosef et Mashiach.
Oui, je vous conseille d'étudier attentivement le 11e chapitre de Maïmonide que je vous ai cité, je vous donne la référence, Ilchot Melachim, dans le Mishneh Torah, 11e chapitre. Et Maïmonide, dans tout le programme des différentes étapes, il le récapitule de façon très schématique, ne comprennent que celui qui comprenne, et c'est le seul texte juridique que nous avons qui codifie ce que nous appelons l'espérance messianique. Que se passera-t-il? Qu'est-ce qu'il est censé se passer au temps que nous appelons le temps messianique? Peut-être, si ça vous intéresse, on étudiera ce texte lundi ou mardi. Et alors, en tout cas, il y a tout un programme. Et lorsqu'on voit la cohérence et la clarté du temps de ce programme, on comprend que toutes ces controverses contemporaines entre les différentes sectes juives concernant ce problème, sont basées sur une ignorance encyclopédique, une ignorance totale. Je vous donne les trois premiers points du programme. Restauration de la souveraineté politique juive sur la terre d'Israël. Vous allez me dire, c'est fait. Enfin, c'est fait. Construction du temple et rassemblement des exilés. Et alors, un mystère. Si le Messie doit d'abord restaurer un État juif, deuxièmement, construire le temple, et après seulement rassembler les exilés. Pour qui il fait un État juif et pour qui il construit le temple? Vous suivez? Et la réponse est très simple, c'est qu'on ne sait pas lire. Okay. Et d'abord, la restauration de la souveraineté politique juive pour les juifs qui se rassemblent en Israël. Et ensuite, pour eux, ça s'appelle les Israéliens dans l'histoire géographique contemporaine. Un temple sera construit, vous allez me dire, on ne sait pas comment, mais comment ça va se passer? Est-ce qu'on savait comment ça allait se passer avant 48, qu'il y ait un État juif? On ne savait pas non plus. Okay. Et ça s'est passé. Et après, le rassemblement des 10 tribus perdues. Il y a d'abord l'État juif pour les juifs, et après, le rassemblement des Nidahim, dit Maïmonide, pas des Golim. Il y a une différence entre les Golés Israël, c'est les juifs, qui sont en galoute, ils se connaissent et ils sont connus comme tels. Il y a les Nidahim, ceux qui sont repoussés en dehors de l'évidence de leur identité. C'est ceux-là qui reviennent après la construction du temple. Et je vous donnais ça comme exemple, okay? On étudie cela dans Maïmonide. Alors la question qui se pose, c'est, et quand les autres reviendront, les Nidahim, est-ce qu'il restera de la place pour les Juifs qui ne sont pas encore revenus? Je vous donne l'adresse de l'agent juif, débrouillez-vous avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais rapidement, parce qu'on a tout ça à dire.
Monsieur, je voulais savoir, quand vous parlez d'universel humain, on voit vers Jérusalem, vous parlez des chrétiens et des...
Je parle de tous les hommes.
Mais lorsqu'on voit les traditions, par exemple, extrême-orientales, bouddhisme, etc., ça représente quand même une masse non négligeable de l'humanité, et ils sont
écoutez,
sur Jérusalem.
Écoutez, c'est un autre sujet, la question vient toujours à sa place. La Torah, la Bible, nous raconte en gros plan l'histoire de la famille d'Abraham, c'est-à-dire pour notre sujet le relais entre Israël et l'universel humain. Okay. Mais la Torah commence son récit généalogique historique à partir du premier homme. Il y a une charnière très importante qui est Noé, Noah en hébreu, et toutes les lignées humaines descendantes de Noé. Dans une de ces lignées, la lignée de Shem, à travers Éver, se produit un phénomène considérable pour l'histoire du salut, et qui est la constitution de l'identité hébraïque, qui est en liaison avec l'universel humain. Mais pendant 2000 ans, nous avons été trompés par le fait que nous avons été mis en cage, en ghetto, par la famille d'Abraham. Je vous ai montré qu'il y a 7 personnages, ceux qui ont suivi l'analyse, Ken. Mais enfin, vous en connaissez surtout 2, les chrétiens, les musulmans, c'est-à-dire Esav et Ishmaël. Et notre relation à l'universel humain, à partir du temps des ghettos, a toujours passé par l'église et la mosquée. Mais nous abordons déjà un temps où la relation entre l'identité Israël et l'universel humain court-circuite l'église et la mosquée. C'est le temps d'Israël. Suivez cette dimension de l'analyse dans l'histoire des relations entre l'État d'Israël et les nations du monde, en dehors de l'église et de la mosquée, la relation avec les Malgaches, la relation avec les Tibétains, bon, ça, annulé. La relation avec les Thaïlandais, disons, ou la relation avec les Camerounais, par exemple, eh bien, ça passe en dehors de l'église et de la mosquée. Ça, c'est sorti du temps juif, c'est le temps israélien. Dans le temps juif, vous avez lu ce roman des frères Tarot, À l'ombre de la croix. Alors, il faudrait formuler cela à l'ombre de la croix et du croissant. Quelle différence entre la croix et le croissant, c'est peut-être le sang, je ne sais pas, c'est possible. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, ce n'est pas une blague, malheureusement. Mais vous voyez, il y a ce thème-là, le juif ashkénaze, pendant 2000 ans, s'est relié à l'universel humain à l'ombre de la croix. Le juif sfarad, pendant 2000 ans, s'est relié à l'universel humain à l'ombre du croissant. C'est fini. L'israélien se relie à quiconque de l'universel humain dans les relations directes, normales des sociétés humaines entre elles. Mais ces sociétés savent qu'il s'agit d'Israël et pas de n'importe quel pays du Moyen-Orient. Est-ce que c'est clair? Y compris les Chinois, y compris les Japonais, y compris tout le monde. Comme on le dit souvent, ça fait 40 ans que l'État existe, après 2000 ans. Il faut 9 mois pour faire un enfant. Il faut laisser le temps au temps de faire ce qu'il a à faire avec le temps. Est-ce que c'est clair? Mais ce qu'il faut, c'est diagnostiquer les lignes de développement historique. Vous savez, avec tous ces événements autour de l'État d'Israël depuis 40 ans, on n'a aucune idée à quel point les historiens de l'avenir seront stupéfaits de cette espèce de d'énormité d'événements, et sur qui ça pose, sur qui ça repose. Vous savez combien il y a d'Israéliens, et vous savez combien, à l'intérieur même de la société israélienne, il y a d'ennemis d'Israël, sans compter les ennemis de l'extérieur. Rien, sur qui ça tient? Ceux-là sont contre, ceux-là sont contre, ceux-là sont... Vous avez remarqué ce que je veux dire, okay? Sur qui ça tient? C'est un mystère. Okay? Donc, alors je reviens à la lecture du texte. Alors, votre question se pose, et elle a sa réponse. Nous allons voir.
Il s'agit d'être sauvé de la condition créature. Nous sommes une créature, nous serons quoi? Nous serons rien.
Nous serons des êtres. Une créature, ça veut dire être qui n'existe que dans la mesure où elle reçoit l'être qui l'a fait être. Le signe, on mange, il faut manger pour vivre. Okay? Ce qui est un mystère philosophique. La présence de l'homme dépend des aliments. Et il faudrait reprendre la phrase de Molière, okay? Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Si on étudie les lois de la cache-route, on s'aperçoit qu'on a été créé homo mendicatus, je ne sais pas comment dire ça, pas pour rien. Pourquoi on a été créé comme ça? Que si on ne mange pas, on ne vit pas. Il y a une finalité là-dedans. Okay? Mais c'est un autre sujet. Okay? Mais pourquoi tout de suite la Torah s'occupe de savoir comment on mange? Et je referme la parenthèse. Okay? Et ça veut dire la créature se définit comme l'être qui n'existe que dans la mesure où elle reçoit, où il reçoit l'être qui le fait être. Bon, alors ça c'est un être précaire. Et on passe par ce stade de l'être précaire qui s'appelle en lamazé, ce monde-ci, pour en examen de laboratoire, mérites-tu l'être vraiment? Et donc, pendant tout ce temps de l'examen, si j'ose dire, c'est un examen de passage. Bon, on a réussi l'examen de passage à la sortie d'Égypte, le passage, Pessah. Okay? Il y a des examens de rattrapage d'ailleurs, Pessah Sheni. Et alors on sait que c'est possible. Et toute créature, comme je disais, ça se sent, ça se perçoit dans toutes les littératures, de toutes les cultures, sont en exigence de salut. De salut de quoi? J'emploie un terme français de connotation chrétienne, parce que c'est le plus commode. Mais de salut de quoi? Eh bien, Israël a un secret, du salut d'avoir été créé. Il fallait bien avoir été créé pour être donné à l'être, mais il faut passer par le stade de l'histoire de l'être créé en tant que créé. L'exigence profonde, là on est en plein dans la mystique juive, l'exigence profonde, c'est l'exigence d'être dans le sens de la Havaya, l'être vrai, l'être total, l'être absolu, qui est l'être du Créateur. Et si le Créateur aime ses créatures, ben c'est pas un être fantomatique qui l'a prévu pour eux, c'est l'être vrai, mais il faut l'obtenir, il faut le mériter, d'où la morale. Donc, je récapitule beaucoup de choses à la fois. Okay? C'est-à-dire, dès que l'on entend que le Créateur, selon la Bible, c'est l'être absolu, nous sommes assurés que l'être qu'il nous a promis, c'est l'être absolu. Sinon, c'est pas sérieux. Est-ce que c'est clair? Okay. Est-ce qu'un père peut créer un fils en pensant « tu seras moins que moi, sinon tu seras pas » C'est pas sérieux. Okay. Bon, j'ai déjà trop dit, okay, à cause du vocabulaire. Okay. Et alors, nous avons comme ça des coups de projecteur d'exemplarité qui nous rassure. Moïse, okay, et les patriarches, l'être hébreu, bon, et Netzach Israël, Rabbi Shaker, des phrases comme ça qui nous indiquent de quoi il s'agit, qui nous indiquent que c'est sérieux, okay, que faut croire que le Créateur, selon la Bible, est un démiurge, un fabricant de poupées, qui animé, plus ou moins animé, qu'on appelle des animaux. Et puis qui joue avec des poupées. Et après, quand il n'a plus envie des poupées, au cimetière. Ce serait un dieu monstrueux, ce n'est pas le dieu de la Bible. C'est le dieu des mythes. Est-ce que c'est clair? Et nous sommes anti-semites. Alors je reviens au problème. Et la foi d'Israël, c'est la foi que nous pouvons être sauvés de la condition de créature. Les chrétiens disent ça à leur manière, la mort peut être vaincue. Bon. Et alors il y a la manière dont le chrétien effectue sa foi que la mort peut être vaincue. Elle n'a rien à voir avec le judaïsme, mais la définition de l'exigence du salut est fondamentale. Elle se trouve dans le vocabulaire peut-être exprimé de la façon la plus proche que la façon juive, mais elle reste étrangère au judaïsme. mais elle n'est qu'un exemplaire de l'exigence de salut qu'ont connue toutes les cultures. Dans toute foi, il y a un peu de la foi d'Israël. Mais non élucidée, non claire, paganisée, avec des images. Avec... Vous en avez eu un exemplaire avec l'exposé magistral, d'ailleurs, du rabbin Bernheim, sur que la différence entre l'universel humain et Israël, si j'ose résumer en une phrase qu'il a dit en plusieurs bibliothèques, c'est le choix de la mort ou le choix de la vie. Alors, toutes ces traditions religieuses pour qui le salut, ça consiste à mourir, alors que pour Israël, le salut, ça consiste à la vie absolue, à la vie vraie. Bon, alors, tous les vocabulaires, c'est la mort qui est la vraie vie, hein, tout ça, c'est de la littérature. Okay. Bon, je referme la parenthèse, parce qu'on risque encore de perdre du temps. Enfin, c'est un sujet pour lui-même. Pourquoi la Bible dit que l'universel humain reconnaîtra enfin sa foi dans la foi d'Israël? Pourquoi, dans l'histoire, on voit que l'universel humain a perçu dans la foi d'Israël, la foi des fois, si j'ose dire, quelles que soient encore une fois, je vais pas faire exprès, les rivalités, les ingratitudes, les invraisemblables. Je crois qu'il reste encore un livre à écrire, un livre de théologie à écrire. Qu'est-ce que c'était la faute du premier homme? C'est l'ingratitude. D'ailleurs, il y a un midrash très plein d'humour qui indique l'ingratitude dans la faute du premier homme. Lorsque Dieu a dit au premier homme, je t'avais dit de ne pas manger. Tu as mangé. Il dit, mais c'est elle qui m'a donné à manger. Alors le midrash dit, voilà l'ingratitude. Il lui a donné une femme, okay, pour lui faire à manger, et il se plaît. Et le mot est employé. Adam Arishon aya kafui tova. Il était ingrat. Bon, vous voyez, tout cela est plein de choses importantes et simples. Et alors, je le dirais de cette manière. On sent confusément dans la foi humaine en général, quelle que soit sa figure, son image, l'exigence de ce que nous appelons en termes hébraïques de l'histoire juive, la sortie de l'exil. Quel exil? L'exil de la condition de créature. Or voilà, on découvre un peuple qui vit cela. Sa foi, c'est Galut Geoula, le point de référence, la sortie d'Égypte. Ça y est, c'est clair? Alors d'où cette question, on est retourné en exil, on va encore proclamer la certitude de la sortie d'exil. Il y a une contradiction. Est-ce qu'on va encore, à la limite, Nachmanide va dévoiler cela dans son commentaire sur la Torah. Est-ce qu'il est question de continuer encore à pratiquer la Torah tout entière, une fois exilé d'Eretz Israël, puisque la Torah nous a été donnée pour la pratiquer en Eretz Israël, et si on redescend d'Eretz Israël, que ça a un sens de la pratiquer, Nachmanide, je ne vous cite pas... le Mapam. Et d'ailleurs, c'est inversé, parce que le Mapam, lui, sa doctrine, ce serait de dire la Torah, c'est bon pour la galoute. Bon, je reviens en tout cas au problème. Et alors, la réponse de la Gemara, c'est oui, il faut continuer à la pratiquer pour ne pas l'oublier. Vous voyez jusqu'où ça va. Je sais qu'il y a des controverses là-dessus, mais c'est des controverses pro-domo. Maintenant que le temps d'Israël est arrivé, ben on peut lire la Nachmanide en clair. Okay. Et je referme la parenthèse. Alors voilà, on découvre qu'il y a un peuple qui vit l'exil dans sa condition historique. Pour toutes les autres religions, ce que je viens de dire, c'est une donnée abstraite, spirituelle mais abstraite. La condition de l'homme et la condition de l'exil. Mais qui a vécu l'exil? Les Juifs. Et c'est les Juifs qui disent « on peut sortir d'exil ». Vous comprenez où est cette référence, Ken? Donc, je reprends donc la lecture directement. Si j'ai suffisamment répondu à votre interrogation. Alors, voilà donc, je dis la fin de la Mishnah. Les sages disaient, Yemachayecha, qu'on commémorera la sortie d'Égypte, tout le temps de Olam Hazé. C'est clair? Les jours de ta vie, c'est tout le temps dans Olam Hazé. Alors, si c'est tout le temps dans Olam Hazé, notez bien cela, c'est pas nécessaire de préciser, y compris les nuits. Il suffira de rappeler la sortie d'Égypte, les jours dans Olam Hazé, même si on est revenu en exil. Et puis, puisque c'est tout le temps de Ramazé que la sortie d'Égypte garde son effectivité, même si on est revenu dans la nuit. C'est clair ? Alors, kol yemei chayecha pour les hachamim, tous les jours de ta vie, les havil yemot hamashiach, ça voudra dire que même dans les temps messianiques, on commémorera la sortie d'Égypte. Je vais tout de suite décrypter cela avant de voir le contenu de l'enseignement de la Gemara à ce sujet. Ça veut dire, lorsqu'on sera sorti du dernier exil, l'exil d'Édom, de Rome. Alors, par postulat israélien, nous y sommes. Okay, on est, d'où est sorti l'État d'Israël contemporain? De la fin de l'exil d'Édom. Je parle pour ceux qui ont vécu cette fin d'exil et se retrouvent hébreux après. C'est-à-dire, nous sommes contemporains de deux temps d'histoire différents. En tant que juifs de diaspora, nous avons encore parti de l'exil d'Édom. En tant qu'Israéliens, nous sommes sortis de l'exil des Dômes. C'est clair ? Même si on est rattaché avec des élastiques économiques. Et ça voudrait dire que même quand il y aura l'État d'Israël de la fin des temps d'exil, on fera Pessah. C'est ça que dit la Mishnah. Voilà ce que disaient les Chachamim. C'est clair ? Alors étant donné qu'ils... Et c'est vrai, on continue à faire Pessah. Figurez-vous. Mais où est le caractère invraisemblable ? C'est Benzoma qui va le dire. Comment ? Après être sauvé de l'Allemagne, on va se rappeler qu'on était sauvé de l'Égypte et que c'était important, mais l'Allemagne c'était plus important. Vous voyez le raisonnement ? Je le schématise, mais c'est clair. Hein ? Et on ne savait pas encore que c'était l'Allemagne. Il s'est avéré que c'est l'Allemagne. De la même manière que quand les Hébreux devaient descendre dans le premier exil, ils ne savaient pas encore que c'était l'Égypte. Il s'est avéré que c'était l'Égypte. Mais reste l'Olahem, dit le verset, dans un pays qui n'est pas le leur. Il y a un diouk du Midrash qui dit, dans un pays, Eretz Lolahem, c'est pas l'Olahem des Hébreux. Eretz Lolahem, c'est Eretz Lolahem des Égyptiens eux-mêmes. Dans un pays où le sol n'appartient pas à ses habitants. Ça ressemble beaucoup au régime soviétique. Et c'était un peu le régime au temps du Pharaon. La terre appartenait au Pharaon et non pas aux Égyptiens. Et aux prêtres, c'est ça. Grâce à Joseph. Je ne sais pas s'il préfigurait Staline, ce Joseph-là, mais ça devait être une... Voilà. Alors, la Gemara enchaîne tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a entre Benzoma et les Hachamim ? Vous voyez pourquoi les Hachamim ne pouvaient pas utiliser le verset à la manière de Benzoma ? Parce qu'il l'avait déjà utilisé pour autre chose de beaucoup plus important. Okay ? Mais il était nécessaire pour les sages à l'époque... Je pense, c'est une explication que je vous donne personnellement, je n'ai pas trouvé de base dans les sources, pour, comment dire, conforter la foi des Judéens retombés dans le temps d'exil. Même la nuit, on se rappellera, on est sorti de la nuit. Mais pour ça, il faut au moins voir les étoiles. Vous voyez à peu près le lien. Okay, il y a une halakha, c'est interdit de dire le Kriyat Shema dans une chambre fermée, où on ne voit pas les étoiles. En général, c'est interdit de prier dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre pour voir le ciel. Mais les rabbins permettent. Okay, que ce soit clair. Okay, n'allez pas dire, bon, je ne vois pas les étoiles, je ne dis pas le Kriyat Shema. Vous pouvez demander au Chazan de vous donner un... Alors, on enchaîne sur la Gemara. Tania. Amar lahem benzoma la hachamim. On enseigne, voici ce qu'a objecté benzoma au sage. Suivez bien. Vechi, maskiri, netziat mitzrayim limot hamashiach. Benzoma dit au sage, qu'est-ce que vous dites? Et est-ce qu'on a à commémorer la sortie d'Égypte au temps du Messie? Vous suivez? Ken? Ba'alo kvar ne'emar, mais n'est-ce pas qu'il est écrit dans un verset de Jérémie? Hine yamim ba'im, suivez bien. Voici des jours viennent, Jérémie, c'est ancien, okay? Voici des jours viennent, Neum Hashem, parole de Dieu, Velo Yomru Od, et on ne dira plus, Hay Hashem, vivant et Dieu, Asher Ela et Bene Israël Meret Mitzrayim, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, Kihim, mais Hay Hashem, vivant et Dieu, Asher Ela, qui a fait monter, Vacher Evi, qui a amené, et Zerar Bet Israël, la postérité de la maison d'Israël, Meir et Tsafona, du pays du Nord, ou Mikola Aratzot, et de tous les pays, Asher Idartim Sham, où je les ai, Nidartim, où je les ai repoussés là-bas. Vous voyez quel est l'argument de Benzema, il est très fort. Il dit, ah, Rami, mais pourquoi vous lisez Kol Yemei Hayecha Le'avilimot HaMashiach, que même au temps du Messie, on se rappellera de la sortie d'Égypte. Il y a un verset de Jérémie, qui est un prophète, qui dit, il arrivera un temps où on ne dira plus, définition, quel est le Dieu de notre foi, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Non, on dira plus cela. On dira celui qui nous a fait sortir du pays du Nord et de tous les pays, c'est-à-dire la fin de l'exil ultime. C'est-à-dire à quel point ce verset cité par Benzema désigne notre histoire contemporaine. On peut, jusque dans les détails, le sionisme, ça a commencé par la sortie du pays du Nord et de tous les pays. Et c'est même pas la peine de désigner qui c'est ce pays du Nord. Okay, c'est clair jusque-là? Alors, les sages lui ont répondu à Benzema. L'eau, c'était Aker, suivez bien sur le texte, à cause des mots. L'eau, c'était Aker et Tiet Mitzrayim et Mkoma. Ça ne veut pas dire qu'on effacera la sortie d'Égypte, littéralement, pas que la sortie d'Égypte sera arrachée de son endroit. Ce n'est pas qu'on effacera le souvenir de la sortie d'Égypte. Et là, mais, c'était Shirbud Malchuyot Hikar, que la commémoration de la délivrance de l'oppression des Malchuyot, des empires, sera l'essentiel de la commémoration, Yetziat Mitzrayim Tafello, et la sortie d'Égypte contingent. C'est-à-dire qu'on aura une Agada de Pessah, où l'essentiel du récit de l'Agada, c'est la sortie de l'exil de Rome, et avec une préface d'une Mishnah Tafel, pour rappeler nos ancêtres avaient connu en sortant d'Égypte. De la même manière que dans notre Agada de Pessah, de la sortie d'Égypte, il y a une Mishnah pour nous rappeler Abraham était sorti d'Ur Kasdim. Vous voyez à peu près le plan? C'est clair? Top. Et cela, c'est ce que les Hachamim répondent à Benzoma pour expliquer l'intention réelle du verset de Jérémie. Quand il a dit « on ne dira plus », c'est-à-dire l'essentiel, ce qu'on dira, c'est la sortie du pays du Nord et de tous les pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fera aucune allusion à la sortie d'Égypte, étant donné l'importance de la sortie d'Égypte. Alors, reconnais cela. Dans le parallèle, l'événement de la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim est considérable. Et pourtant, nous n'avons plus qu'une trace de rappel en préface. Eh bien, le temps où l'événement de la sortie d'Égypte est considérable, mais il arrivera un temps où ça le renverra à la préhistoire. En trace de... Est-ce que c'est clair? Et il me semble qu'on peut déjà dire que nous vivons un peu le passage du temps de la sortie d'Égypte au temps de la sortie d'Europe. Voilà, il faut avoir le courage de voir les réalités simples comme elles sont. On n'aurait peut-être pas ce courage si la Gemara n'en avait pas parlé il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, etc. Est-ce que c'est clair? Déjà, les Hachamim ont vu cela. La sortie d'Égypte, c'est très important. C'est le fondement de la foi. Mais voilà, on cite Jérémie. Jérémie dira, et puis vous ne savez pas ce qui vous attend. Quand ça arrivera, ce qui vous attend, vous aurez une Agada de Pessah colossale. La sortie d'Égypte, ça sera une phrase dans la préface. Est-ce que c'est clair? C'est pas la peine de perdre du temps. Vous avez une question?
Pourquoi alors, actuellement, pourtant en Israël, on le lit à la Agada en parlant de la sortie d'Égypte?
Oui.
Il devrait y avoir.
Oui, vous savez qu'on est toujours en retard. Hein? Le Irhour. C'est-à-dire, dès que nous aurons des autorités compétentes, nous aurons la Agada de la cinquième coupe. Nous aurons la Agada israélienne. Pour le moment, on est encore empêtré avec notre origine juive. Je ne sais pas comment dire, mais vous avez compris. Et dans aucun foyer normal qui fait le CDR en Israël, il n'y a pas la présence de l'événement qui a fait qu'Israël a surgi après la catastrophe de la fin d'exil de Rome. Il y a même la chaise vide pour les Juifs de Russie, je ne sais pas si vous savez ça, et il y a toute l'atmosphère de la Shoah derrière. Qu'est-ce que nous faisons en commémorant la sortie d'Égypte en Israël? Est-ce qu'on va court-circuiter ces milliers d'années d'histoire qui ont fait que l'Exodus, le vrai, est sorti d'Europe? Tout ça, c'est présent. Ce n'est pas encore formulé liturgiquement. Vous avez compris?
Il y a une Agada de la Shoah.
Il y a une Agada de la Shoah. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Dans des kibbutzim non religieux, l'essentiel de leur Agada, c'est le récit de la sortie de la Shoah. Mais je crois que lorsque nous aurons des autorités suffisamment courageuses... Enfin, non, j'ai eu tort de parler comme ça. Chacun a le droit à l'honneur qu'il a droit. Mais lorsque nous serons arrivés au temps où il sera possible de formuler les choses dans une halakha israélienne, alors cette Gemara, vous voyez, c'est le Talmud, hein, cette Gemara sera réalisé. C'est en cours, je dois vous dire. Voilà. Je me réfère à ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas demander à cette mutation d'identité, tout ce qu'elle entraîne, de s'opérer par un coup de baguette magique. Il faut le temps que cela se formule. Petite parenthèse qui vous éclairera, on n'a aucune idée du temps qu'il a fallu pour que la liturgie de Hanouka s'intègre dans la tradition. Okay. Le Beit HaMidrash des Maccabées décide, à partir de maintenant, Hanouka commémore la victoire sur les Grecs, avant que l'ensemble des sectes juives, enfin des tendances juives de l'époque, acceptent qu'on dise le Hallel avec Bracha, il a fallu du temps. Ça se passe aujourd'hui autour de Yom HaTzmaout. Il faut du temps. Vous voyez l'analogie. Donc. Alors, je continue. Et voilà que la Gemara va nous donner d'autres exemples qu'il arrive, suivez bien, des moments historiques